Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. L'augmentation du nombre de candidats à l'exil qui traversent la Manche, une augmentation qui inquiète l'association Utopia 56. Son fondateur, Yann Manzi, sera l'un de nos invités. Ouverture en Algérie du procès en appel de l'ancien ministre de la Justice, Tayeb Lou. Il est notamment poursuivi avec d'autres prévenus pour abus de confiance et trafic d'influence. L'insécurité alimentaire aiguë a très fortement augmenté dans le monde en 2021. Elle a frappé près de 40 millions de personnes supplémentaires. Les récents combats entre l'armée irakienne et des combattants yazidis affiliés aux rebelles kurdes turcs du PKK, des combats dans la région du Sinjar qui ont entraîné le déplacement de plus de 4000 personnes. Regard dans votre journal sur une association qui cherche à améliorer les conditions de vie des enfants sans soutien familial en Tunisie, Darna France. Nous écouterons son président, Femi Katou. La nouvelle Union populaire écologiste et sociale se dessine en vue des élections législatives de juin en France. La France insoumise et le PS annoncent être parvenus à un accord qui sera soumis à l'approbation interne des socialistes. Le gouvernement Castex restera en place au moins jusqu'au 13 mai prochain, une annonce de Gabriel Attal à l'issue du Conseil des ministres. Jamais autant de personnes en exil n'ont traversé la Manche en bateau. Inquiétude formulée par l'ONG Utopia 56. Une hausse de 300% avec 6695 traversées depuis le début de cette année contre 1631 l'année dernière à la même date. Entretien avec le fondateur de l'ONG Utopia 56, Yann Manzi.
Ça continue, c'est ça qu'on peut constater. Et je crois que l'augmentation depuis le début de l'année, et surtout ce qu'on a vu cet hiver et cet automne, même après le naufrage, ça a continué à passer assez intensivement, alors que d'habitude, l'hiver, ça se calme bien. Là, ça s'est pas calmé du tout. Et on a encore des records. Ça continue au quotidien, en fait.
Et aujourd'hui, à Utopia 56, quel type de politique demandez-vous?
Nous, ce qu'on veut, c'est des routes sûres pour éviter toutes ces filières de passeurs et qu'on puisse imaginer, qu'on vienne d'Ukraine ou d'ailleurs, que des routes sûres et la possibilité d'avoir et de déposer une demande d'asile dans son pays choix au niveau européen soit respecté. Et que je pense que le jour où on donne la possibilité à toutes les populations d'arrêter d'aller vers l'Angleterre en posant une politique d'accueil et pas une politique de non-accueil, je tiens à vous rappeler que sur Paris, dans les campements parisiens, on a des passeurs qui viennent dire aux gens « mais allez en Angleterre ». Donc c'est bien cette politique de non-accueil qu'on demande à ce que ça passe en politique, en réelle politique française et européenne d'accueil.
Vous dénoncez aujourd'hui une surmilitarisation du littoral.
On dénonce bien sûr une surmilitarisation. Les moyens mis dessus sont totalement incroyables et ubuesques, qui n'empêchent pas bien sûr sur la zone littorale nord, qui est plus de 150 km, pour les passeurs d'organiser quand même ce trafic et le risque que prendre ces populations pour pouvoir imaginer un futur. Donc nous, ce qu'on demande plutôt que de la militarisation, c'est tout simplement des routes sûres et légales pour tout le monde, de façon à ce qu'on puisse imaginer que la prise de risque et la prise de danger s'arrêtent. Et ce que l'on constate aujourd'hui aussi, c'est que bien sûr, avec la surmilitarisation, on a les populations qui partent de plus loin que des points habituels qu'on a pu voir, donc avec plus de risques, avec quelque chose qui va devenir très compliqué pour toutes ces populations qui, quelque part, essayent d'atteindre les eaux anglaises avant de déclencher des secours. Donc on est assez inquiet sur la réalité de ce qui va se passer dans les semaines et les mois qui viennent.
Et vous revenez sur ce drame en novembre dernier, le naufrage qui a fait 27 morts, et vous déplorez la réponse de Paris et de l'Union européenne qui ont, écrivez-vous, opté pour une réponse répressive.
C'est toujours des réponses répressives, et on peut imaginer que, bien sûr, il existe un droit international au niveau des réfugiés, ces populations pourraient y avoir le droit. Pourquoi les Ukrainiens ont ce droit-là et pourquoi les autres populations ne l'ont pas? C'est une question réelle, c'est une question qui est posée, c'est une question à laquelle on demande des réponses. Pourquoi ce droit qui s'appliquerait à une catégorie des peuples en migration suite à des guerres ou à des drames humains, pourquoi elle ne s'applique pas pour les populations du crédit?
Ce qu'il faut changer aussi, c'est le regard porté sur les candidats à l'exil, notamment en France.
Je pense qu'on a un vrai sujet et ce qu'on peut voir, malgré tout ce qu'on peut voir sur l'Ukraine, et je reviens souvent sur l'Ukraine parce qu'on est très content de voir la réalité de ce qui a été proposé par la France et l'Europe aujourd'hui sur la réponse à l'Ukraine. C'est ce qu'on demande depuis des années pour tout le monde. Donc là, on se rend compte qu'il y a un vrai sujet, il y a un vrai, ce qui n'était pas possible hier est possible aujourd'hui. On nous disait qu'il n'y avait pas de place, en fait, on peut trouver des centaines de milliers de places. Donc nous, ce qu'on demande, c'est que y ait un traitement égalitaire, que les droits fondamentaux soient respectés, que ce soit pour les Ukrainiens ou pour toutes les autres populations, et que derrière, on va continuer à se battre pour ce respect des droits fondamentaux, les droits humains et des droits des enfants.
Et vous dénoncez l'accord établi entre le Royaume-Uni et le Rwanda. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que dit cet accord ?
Cet accord dit que demain, la possibilité de remonter jusqu'à début janvier 2022 et que toutes les personnes qui ont remis, entre guillemets, illégalement le pied sur le territoire seront en capacité d'être renvoyées au Rwanda pour voir leur demande d'asile traitée au Rwanda. Donc c'est tout simplement incroyable, c'est tout simplement le non-respect des traités et du droit international. Je pense que tout le monde est vent debout contre ce que fait l'Angleterre aujourd'hui. Elle est sous les projecteurs, elle est aussi sur beaucoup de communication pour essayer d'enrayer ces passages, d'installer et de distiller la peur. Et puis par contre, ce que ça a comme effet, hein, c'est que bien sûr, les gens vont prendre encore plus de risques. Et donc bien sûr, on craint le pire en fait sur des annonces comme ça, qui sont totalement... incroyable et qui ne respecte pas le droit international. Comment on peut dire ça? Comment on peut oser faire ça? Et puis derrière, comment les gens vont prendre des risques? Et c'est ça qui nous interpelle le plus, c'est que tout ça a des incidences qu'on va mesurer dans les semaines et les mois qui viennent.
Ces candidats à l'exil qui, bien entendu, n'ont pour la très grande majorité aucun lien avec le Rwanda.
Ah non, bien sûr, aucun lien avec le Rwanda. On sait que le Rwanda est terre d'accueil pour plein de populations en proximité des conflits et qui est une zone de refuge. Par contre, le mécanisme de l'externalisation des frontières au-delà de l'Europe, pour passer un message très clair à tous ceux qui viennent, regardez demain, si vous venez, on vous fera ça. Là, c'est encore de la surenchère. On n'avait jamais été jusqu'à là. L'Angleterre ose franchir le cap. C'est une honte absolue. Quel est ce gouvernement? Qui sont ces gens qui sont aux manettes? C'est le non-respect des droits humains. C'est du racisme aussi. Je pense qu'il y a un vrai sujet, en fait.
Qui n'est, selon vous, pas suffisamment mis en lumière aujourd'hui?
Non, du tout. Et je pense que, bien sûr... répétons-le, soyons contents de l'accueil des Ukrainiens, mais par contre, je pense que ça pose une vraie question dans notre société. Du coup, pourquoi pas les autres? Et je pense qu'on peut pas passer à côté du mot racisme. Et que, bien sûr, que ça soit en France, en Europe ou dans le monde, le racisme monde, les idées de droite, voire d'extrême droite, sont prégnantes, sont réelles, elles sont là. Et que, bien sûr, c'est aussi contre ça que nous devons tous lutter ensemble, parce que ce que je voudrais rappeler... à votre antenne, c'est que les droits que nous défendons pour tous les exilés, c'est les nôtres. Et que si, bien sûr, eux, ils les perdent, nous en perdons aussi. Donc, bien sûr, qu'il est important de comprendre l'enjeu et de ne pas se laisser enfermer dans des folies humaines qui seraient, au travers de l'exilé, le problème de démo de toutes nos sociétés. C'est tout simplement lamentable. Et c'est ce qu'on veut dénoncer.
Le fondateur de l'ONG Utopia 56, Yann Manzi. Les autorités tunisiennes ont annoncé l'arrestation de 58 réfugiés en situation irrégulière, des personnes qui tentaient de franchir clandestinement les côtes européennes. Une annonce du porte-parole de la Direction Générale de la Garde Nationale. L'ouverture en Algérie du procès en appel de l'ancien ministre de la Justice, Tayeb Lou. Il est notamment poursuivi avec d'autres prévenus pour abus de confiance et trafic d'influence. Le pôle pénal financier et économique du tribunal de Sidi Mahamed à Alger avait condamné Tayeb Lou et l'ancien inspecteur général du ministère de la Justice, Tayeb Belachemi, respectivement à 3 ans et 4 ans de prison ferme. Les récents combats entre l'armée irakienne et des combattants yazidis affiliés aux rebelles kurdes turcs du PKK, ils ont entraîné le déplacement de plus de 4000 personnes dans la région du Sinjar. C'est ce qu'annonce le Kurdistan d'Irak qui les a accueillis, ce que reconnaissent les autorités fédérales de Bagdad, mais elles assurent que ces déplacements sont temporaires et que la situation est revenue à la normale au Sinjar. L'insécurité alimentaire aiguë a très fortement augmenté dans le monde en 2021. Elle a frappé près de 40 millions de personnes supplémentaires pour atteindre près de 200 millions de personnes. En cause, selon l'ONU, des conflits et des crises climatiques et économiques. La guerre en Ukraine va aggraver les fragilités des pays très dépendants des exportations de céréales ou d'engrais russes et ukrainiens. Coup de projecteur sur l'association Darna France, une ONG qui cherche à améliorer les conditions de vie des enfants sans soutien familial en Tunisie. Darna signifie foyer en arabe. Le président de l'association, Femi Katou.
L'association Darna existe en Tunisie depuis 2014. Elle prend en charge des enfants sans soutien familial. Il faut savoir qu'en Tunisie, Le nombre d'enfants abandonnés chaque année s'élève à peu près 1000 par an, et la majorité de ces enfants sont adoptés. Malheureusement, ceux qui ont des petits handicaps ne le sont jamais. Donc, ils restent dans un centre, dans un institut national de protection de l'enfance, et ils grandissent dans ce centre-là. Donc, depuis 2014, l'association tunisienne Darna prend en charge ces enfants. Elle prend 3 enfants dans un modèle plutôt familial, avec une maman de substitution. Et l'association, elle s'occupe de tous les frais de scolarité, les frais de santé, les dépenses de tous les jours, les loisirs également. Donc ça dure depuis 2014, il y a une première maison, une deuxième. Il y a également des pouponnières où il y a des enfants, des petits nourrissons de moins de 2 ans qui sont en attente d'adoption. Et en 2020, nous est venue l'idée de créer une association Darna France, une sorte d'antenne de cette association-là. Et le but était d'augmenter le nombre d'enfants pris en charge en Tunisie. Il faut savoir que quand on s'est adressé au centre d'Institut national de protection de l'enfance en Tunisie en leur annonçant la bonne nouvelle qu'on allait ouvrir une nouvelle maison pour prendre en charge trois nouveaux enfants, ils nous ont dit qu'il y en avait 60 à placer. Voilà, donc c'est un besoin immense. Et nous, on essaye de mobiliser, que ce soit la diaspora tunisienne en France, mais les gens aussi qui sont sensibles à cette cause-là, aux enfants qui sont abandonnés, à l'handicap, pour essayer de sortir de cette précarité le maximum d'enfants possible.
Alors comment ça se passe justement en France avec les membres de votre association? Il y a un système de parrainage?
Ouais, exactement. Il faut savoir que nous, le modèle qu'on a mis en place, c'est d'accompagner des enfants jusqu'à leur autonomie professionnelle, sociale. Le but, c'est vraiment, on les récupère à l'âge de entre 3 et 8 ans. Et le but, c'est qu'ils grandissent, qu'ils aient une éducation correcte, comme n'importe quelle famille tunisienne moyenne. Et le but, c'est que on ne les laisse indépendants que quand ils auront un métier, un job avec un salaire et qu'ils soient autonomes. Donc, le plus important pour nous, c'est effectivement d'avoir ces parrainages-là. Alors, je rappelle juste pour les auditeurs, un parrainage, c'est un don mensuel qui nous permet d'avoir une visibilité sur le long terme et d'avoir des projets pour accompagner ces enfants sur le long terme. Donc, il y a sur notre site internet, c'est www.darnafrance.com, vous trouverez toutes les informations par rapport à ça, c'est-à-dire que n'importe quelle personne peut souscrire à un don mensuel qui peut bien évidemment arrêter à tout moment. Et il faut savoir une chose importante également, qu'on a la chance d'être reconnu d'intérêt général, donc on peut émettre des reçus fiscaux, donc les dons que vous faites tous les mois ou peuvent être défiscalisés à 66%. Donc quand vous donnez 30 euros par mois pour parrainer un enfant ou un projet, le don ne revient qu'à 10 euros en fait.
Et les personnes qui parrainent un enfant en Tunisie peuvent avoir de ces nouvelles d'une façon ou d'une autre?
Oui, alors nous, notre objectif, c'est que ces enfants-là qui vivent dans une famille complètement anonyme, ils vont à l'école, ils ont des amis, ils vivent dans un quartier avec des voisins qui ne savent pas tous deux pour essayer de respecter leur vie intime. En revanche, sur nos réseaux sociaux, sur nos sites internet, les parrains, on a des groupes sur les réseaux sociaux qui sont fermés, sur lesquels on donne des informations du terrain avec des photos des activités des enfants, leur bulletin scolaire, chaque action qui se passe, où on peut, c'est le seul endroit où on peut voir les visages des enfants, parce que sinon on respecte leur intimité en fait. Donc les parrains, les donateurs, les bénévoles de l'association connaissent tout. De la réalité du terrain et de la vie quotidienne des enfants et des mamans.
Le président de l'association Darna France, Fémi Katou, il répondait à Loïc Barrière. La nouvelle Union populaire écologiste et sociale se dessine en vue des législatives de juin prochain en France. Le Parti communiste a entériné un accord avec la France insoumise après Europe Écologie Les Verts dimanche soir. Le PCF a validé un accord portant sur la stratégie, le programme et la répartition des circonscriptions, et un accord de principe a été trouvé avec le Parti socialiste. Les négociations devraient toutefois se poursuivre pour clarifier ce compromis. Une union avec la gauche radicale qui ne fait pas l'unanimité au Parti socialiste. Stéphane Le Foll, ancien ministre de l'Agriculture sous la présidence de François Hollande, a menacé de quitter le parti. Et l'ancien Premier ministre de François Hollande, Bernard Cazeneuve, refuse lui aussi tout accord avec la France insoumise. Le porte-parole du gouvernement français assure que le gouvernement actuel ira au moins jusqu'au bout du quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire jusqu'au 13 mai prochain à minuit. Aucune nouvelle équipe ne sera nommée d'ici là, selon Gabriel Attal. Il s'exprimait à l'issue du Conseil des ministres. Fin de cette édition. Vous êtes bien sûr Radio Orient. Vous pouvez écouter l'ensemble de vos programmes sur votre site internet radioorient.com. Un très grand merci pour votre fidélité et très bonne suite de programmes à l'écoute de Radio Orient.